Alors, je vais commencer par quelques questions écrites. La première question est de Linda. Dans vos enseignements récents sur les moments difficiles, vous nous avez conseillé une pratique en ligne guidée que j'ai trouvée utile. Cependant, je n'ai pas complètement compris en comment le fait d'inspirer la souffrance des autres sous forme de fumée noire pouvait éliminer notre propre souffrance. Comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi? Est-ce que vous pourriez expliquer cela? Alors, Rinpoche répond. En fait, c'est une représentation. C'est quelque chose qu'on s'imagine. On veut que toutes les négativités quittent les personnes et on leur donne une forme pour les rendre plus faciles à visualiser. Et du coup, on leur donne cette forme de fumée noire. Donc c'est une forme de quelque chose de sale, de pollué, quelque chose de désagréable. C'est pourquoi on donne à ces négativités l'apparence de fumée noire. Et pourquoi est-ce que ça marche? Quand vous faites l'expérience que tout ça, ça a quitté les personnes que vous inspirez, quel est le problème principal? Le problème principal, c'est l'ignorance. Et en raison de cette ignorance, il en découle l'aversion, l'attachement, toutes les clichés. Et donc l'ignorance fondamentale, elle est synonyme d'égoïsme et d'être centré sur soi, d'avoir la saisie d'un soi qui existe. Et cette saisie du soi c'est le plus fort, la plus grande souillure en nous-mêmes. Et donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on utilise ce problème dans notre méditation. C'est comme si, c'est ce qu'on appelle le poison qui mange le poison. Quand on inspire la négativité ou la fumée ou le poison qui vient des négativités des autres, cette négativité-là, elle est censée consommer notre propre négativité empoisonnée, notre côté auto-centré et nos émotions négatives. Et quand ça s'est consumé, brûlé, alors notre propre nature, qui est comme le soleil, elle peut briller, elle peut apparaître, et alors toute l'obscurité s'en trouve immédiatement dissipée. C'est comme si on allumait la lumière dans une pièce, dans une grotte très obscure, qui a été obscure pendant 1000 ans. Et ben, la clarté et l'obscurité, ne peuvent pas coexister. Et donc, quand il y a de la clarté, l'obscurité ne peut plus exister. Et il n'y a plus rien qui a besoin d'être éclairci, et il n'y a plus rien qui doit être combattu, parce que dès le moment qu'il y a de la lumière, de toute façon, il n'y a plus d'obscurité. En fait, quand il y a de la lumière, l'obscurité, elle disparaît en un instant. Et donc, c'est ce type de ressenti auquel on s'entraîne quand votre sagesse, votre compréhension, votre vraie nature est éveillée, se réveille, alors toute votre négativité, toute votre saisie de votre soi, tout votre égoïsme, toute votre dualité, toute votre aversion, tout votre attachement, toutes les émotions négatives, elles seront plus là. Elles sont dissipées dans l'instant. Et donc c'est en ça que consiste la pratique. Mais je l'ai expliqué peut-être un peu plus clairement dans mon livre. Il y a un livre, l'un de mes livres, qui s'appelle L'entraînement de l'esprit, l'entraînement de l'esprit en 7 points, qui a été publié aux éditions Shambhala. Et donc c'est aussi expliqué dans ce livre, et ce livre il a été traduit en pas mal de langues, incluant le chinois. Il y a des enseignements de toute longueur sur l'enseignement, sur l'entraînement de l'esprit en 7 points dans les archives. Et donc les personnes peuvent consulter ces enseignements-là également. Et puis la question suivante de Sherab. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont levé la main ou pas, peut-être pas. Donc je vais d'abord répondre de ces deux questions supplémentaires, et puis je reviendrai aux questions en direct s'il y en a. Donc c'est une question qui fait suite à une question qui vous a été posée pendant le Summer Camp. On vous avait demandé si les 3 méthodes permettant de gérer les émotions, les abandonner, les transformer, les comprendre, peuvent d'une manière ou d'une autre être reliées aux 3 types de méditation de Shiné, de Laktung et du Mahamudra. Dans votre réponse, vous avez dit que nous ne devrions pas compartimenter, mais vous avez plutôt relié ces méthodes aux 3 véhicules. Vous avez dit que abandonner, on pouvait le comprendre comme étant proche du Sravakayana, que la transformation, on pouvait comprendre comme étant proche du Vajrayana, mais ensuite, vous avez dit que la compréhension était proche du Mahamudra. Est-ce que Mahamudra, c'était vraiment ce que vous vouliez dire? Pour moi, j'avais l'impression que ce que vous vouliez vraiment dire, c'était Mahayana. Est-ce que c'est correct? Non. J'ai vraiment dit ce que je voulais dire, mais de façon générale, le Sutrayana, parfois il est présenté, parfois on présente les choses de la façon suivante. Il y a le Sutrayana, le Tantrayana, et puis dans le Tantrayana, la quintessence de ce véhicule, du Tantrayana, c'est le Mahamudra, le Dzogchen, mais aussi bien sûr le Madhyamika, il est aussi là-dedans. Et donc traditionnellement, la compréhension, c'est que le Sutrayana, c'est En fait, c'est le véhicule causal, c'est-à-dire que c'est ce qui travaille sur les causes. Donc ça, c'est un peu ce qu'on relie avec abandonner. Et puis, pour ce qui est du Vajrayana, en fait, c'est plus de l'ordre de la transformation, parce que Le Vajrayana, il s'appuie sur les phases de développement et d'achèvement, notamment la phase de création. Cette phase de création, elle consiste à transformer les choses. Elle nous apprend à voir la nature pure des choses, ce genre de choses. Et puis, l'étape de complétion du Vajrayana. Fondamentalement, c'est donc le Mahamudra. Bien sûr, le Mahamudra, il peut aussi être un peu présent dans le Sutrayana. Parfois, on dit que il y a deux sortes de Mahamudra, celui du Sutrayana et celui du Vajrayana, mais du Tantrayana, mais on peut pas rendre les choses trop rigides avec ces choses-là. En tout cas, c'est une façon d'expliquer les choses. C'est ce que Patrul Rinpoche avait l'habitude d'expliquer, et c'est pourquoi j'ai présenté les choses ainsi. Mais en général, la méditation de Chiné, le calme mental, elle aiderait à se contrôler, elle peut aider à pacifier, mais elle a surtout pour objectif de rendre notre esprit calme et clair. Et en général, c'est une méditation qui est enseignée de manière très courante et très commune en Inde. Elle n'est pas considérée comme spécifiquement bouddhiste. La méditation de Shamatha, donc de Chiné, elle est censée, on dit qu'elle est enseignée et pratiquée et expérimentée, réalisée par beaucoup de chemins spirituels différents en Inde. Presque tous, en fait. Bien sûr que Chiné, ça aide pour travailler sur ses émotions, parce que quand si ça rend votre esprit calme, bah ça oui, bien sûr, ça vous aide, mais ça ne fait que calmer, dans le fond. Et l'Aktung, donc la vision pénétrante, elle est très en lien avec voir la nature des choses, mais en fait, Chiné et Laktung, elles sont très communes, et c'est aussi le Mahamudra. Le Mahamudra, c'est l'union de Chiné et de Laktung. Il n'y a pas de Mahamudra qui serait en dehors de Chiné et Laktung. Et donc, dans le bouddhisme, toutes les méditations sont soit Chiné, soit Laktung. Donc, comme vous le savez, quand vous pratiquez le Mahamudra, c'est fondamentalement Chiné et Laktung. Donc c'est différents niveaux peut-être de Chiné et de Laktung, mais c'est ça la compréhension. Et puis il y a une autre question qui est la dernière qui est posée par écrit, et donc je vais y répondre en premier. C'est Leandra Tatiana Antoya Andiquis. C'est un long nom. Peut-être que c'est un nom italien, espagnol, je ne sais pas. Mais je pense que on m'a dit qu'il y avait deux questions, qu'il y avait des questions similaires. Quand on se rapproche d'une pratique plus engagée, Je me suis trouvé moi-même avec de violentes réactions de crainte, trouvant qu'il y avait trop de négativité en moi, et comme si le but de venir en aide à tous les êtres sensibles pour atteindre la libération était trop grand et inatteignable, hors d'atteinte. J'ai essayé de réfléchir sur l'appréciation des qualités positives, si petites soient-elles, mais je n'ai pas été en mesure de surmonter ces sentiments. Je voudrais savoir comment les transformer et continuer à croître et à développer une motivation plus profonde, plus forte, et un engagement plus profond, plus fort, et une bodhicitta plus profonde et plus forte. Rinpoche répond: c'est une tâche difficile d'aider tout le monde à se libérer. C'est quelque chose de très très difficile. Mais l'idée ici, il ne s'agit pas de se demander si c'est difficile ou pas. Ici, il s'agit de se demander qu'est-ce qui convient d'être fait, qu'est-ce qu'il convient de faire. Et la chose est la suivante, la compréhension est la suivante, c'est que si je ressens que quelque chose doit être fait, si j'ai vraiment ce sentiment que vraiment ça doit être fait, cette chose, alors il faut y travailler. Vous allez peut-être réussir un peu, peut-être que vous réussirez pas trop. Mais il faut bien commencer. Donc, et vous commencez par vous-même. Tout, même le plus long voyage, doit commencer par le premier pas. Et personne n'a peur de faire un tout petit pas. Personne ne peut dire je ne suis pas capable de faire le moindre pas. Et donc, la motivation, c'est que je fais le souhait que tout le monde soit libre de ses souffrances, de ses douleurs. De leur grande et continuelle misère. Et il faut que je fasse quelque chose à ce propos, et je ferai quelque chose à ce propos, et je prie pour qu'il en soit ainsi. Et donc, on ne s'attend pas à ce que ça se produise immédiatement, que ça se produise même dans cette vie. On ne s'attend même pas à ce que ça se produise dans les 100 prochaines années ou dans les 100 ou 1000 prochaines vies. Vous n'avez pas l'attente que ça arrive bientôt. Mais ce n'est pas un problème. Parce que de toute façon, on ne peut pas faire mieux que ça, en fait. On ne peut pas faire mieux qu'essayer de travailler à un tel objectif. Et la première étape de ce travail, c'est moi-même. Si je ne peux pas me venir en aide à moi-même, je ne peux venir en aide à personne. Et donc, c'est pourquoi j'ai besoin de travailler sur moi-même, de m'améliorer moi-même, de me transformer moi-même. Et ça non plus, c'est pas facile. Ça aussi, c'est même très difficile, très très dur. Mais c'est la chose la plus importante. De travailler sur moi-même, de diminuer un peu mes causes de problèmes, de souffrances, de douleurs, d'apprendre un peu comment les faire diminuer. Peut-être que je ne serai pas capable de faire grand-chose pendant un grand nombre d'années ou de vies. Si Thurinpoche avait donné un enseignement il n'y a pas longtemps, de 5h à 7h. Et il disait que son sentiment, c'était que si il ne s'améliorait que d'1%, au cours de sa vie. Il disait que rien que ça le rendrait extrêmement heureux, parce que ça voudrait dire qu'en 100 vies, il deviendrait un Bouddha. Et ça, c'est Sitö Rinpoché qui le disait, qui est une émanation du Bouddha Maitreya, qui est le prochain Bouddha. Et donc, je pense qu'on ne devrait pas être trop impatient à ce sujet, mais simplement travailler là-dessus. Il n'y a rien de quoi avoir peur. De quoi faudrait-il avoir peur? Si rien ne se passe, bah rien ne se passe. Ça peut pas être pire que comme c'est déjà, en fait. Donc de quoi y aurait-il à avoir peur? Qu'y aurait-il à craindre? Il n'y a rien à craindre. Parce que déjà, les gens ont des problèmes, ont des souffrances et tout ça. Donc si je fais quelque chose, si je fais rien, ça va pas rendre les choses pires, si pas mieux. Ça va pas les rendre pires ni pour moi. Ça fera peut-être mieux, ça ira peut-être mieux si je fais pratique, si je développe un peu de compassion. Donc, pourquoi craindre? Il n'y a absolument aucune raison d'avoir peur parce que... Il n'y a pas de... Il peut pas y avoir de désavantage, il peut pas y avoir de... On ne peut pas faire de tort. Si... Il n'y a pas l'idée que si je fais quelque chose, je risquerais de causer du tort à autrui. Il n'y a pas ça. Donc, si je ne peux rien faire d'utile, eh ben, ça ne va pas causer du tort en soi. Si je ne suis pas en mesure d'aider ne serait-ce qu'une ou deux personnes à aller mieux, à avoir moins de souffrance et de problèmes, ou même moi-même, je ne vais pas non plus empirer la situation. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait à craindre? Donc cette crainte, elle est totalement non nécessaire. Et donc je pense, vous pouvez penser à ça, vous pouvez réfléchir à ça, vous en souvenir, c'est comme ça. Donc il n'y a rien à craindre. Donc ça, c'était les trois questions que j'ai reçues par écrit. Et maintenant, s'il y a d'autres questions en direct. Bonjour Rinpoche, bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, il fait très chaud ici, il fait plus de 30 degrés, il fait très chaud. J'ai une question Rinpoche concernant l'accumulation de bon karma pendant notre vie. Au moment de la mort, supposons que j'ai réussi à accumuler un peu de karma positif pendant cette vie, mais que je sois atteint d'une mort violente, comme dans un accident de voiture. Donc, à la dernière minute, vous êtes choqué ou effrayé. Je veux dire, dans quelle mesure l'état d'esprit qu'on a à la fin est important par rapport à ce qu'on a accumulé? Est-ce que c'est le dernier état de conscience qui importe, ou est-ce que c'est ce que j'ai fait pendant ma vie qui compte le plus? Comment ça fonctionne? Et Rinpoche dit, ce que vous faites dans votre vie, c'est le principal. Parce que... C'est ça qui vous construit. C'est ça qui vous développe, c'est ça que vous êtes devenu. L'accumulation, le mérite, c'est pas quelque chose que vous faites et qui va s'accumuler quelque part. L'accumulation, le mérite, c'est ce que vous devenez. Je pense qu'on doit le comprendre de cette façon. Si je suis devenu un peu plus bienveillant, un peu plus compatissant, un peu plus généreux, si j'ai pris un peu plus l'habitude de faire des choses positives et de ne pas faire des choses négatives, toutes ces choses, un peu plus calmes dans notre esprit, c'est ça qui est positif. C'est ça qu'on entend par positif. Donc, bien sûr, Faire des choses qui peuvent aider, ça peut aussi contribuer à faire de moi ce que je suis. Donc c'est ça le karma. Et si j'ai fait beaucoup de bonnes choses, mais que au bout du compte, je suis, ça me met tellement en colère, si bouleversé, si négatif, alors ça ne serait pas bon au final. Parce que si j'ai un sentiment négatif très fort, ça aurait un impact très fort sur moi. Est-ce que c'est destructeur du bon karma? C'est destructeur pour vous, dit Rinpoche. Par exemple, vous avez une très bonne relation avec votre mari, par exemple, pendant toute votre vie et à la fin, vous êtes très en colère et vous vous battez avec lui et vous détruisez la relation, alors ça sera pas bon, n'est-ce pas? Et donc cette fin, cette conclusion, elle a également son importance. Mais cette conclusion, elle n'annule pas non plus toutes les bonnes choses que vous avez faites, mais cette fin, elle a un effet immédiat sur vous-même, surtout si c'est fort. Il ne s'agit pas d'avoir un accident, ou ça ne compte pas, ça n'a pas d'importance. Que vous mouriez de façon soudaine, ou que vous mouriez de manière plus progressive de maladie, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui compte, ce sont surtout les émotions fortes, négatives, c'est ça qui n'est pas bon. Et le tout dernier état d'esprit, est-ce que c'est ce qu'on va emporter jusqu'à la vie suivante? Non, pas nécessairement, dit Rinpoche. Ce qui est le plus fort, c'est ça qui sera le plus fort. Si vous avez un état d'esprit très fortement positif, si par exemple vous n'avez pas fait tant de pratiques que ça, vous n'avez pas fait beaucoup de méditation, pas beaucoup de pratiques, mais que à la fin de votre vie, vous rencontrez un très bon enseignant, vous recevez une très bonne influence, et vous faites quelque chose de très positif, et que vous mourrez dans cet état d'esprit, alors c'est ça qui serait la chose la plus importante. Ça ne veut pas dire que toutes les choses que vous avez fait avant seraient annulées, seraient rendues nulles et non avenues, mais ce serait ça le plus fort. Donc ce serait le résultat de ça qui serait le plus fort. C'est ça l'idée. Merci beaucoup, Rinpoche. Qui est la personne suivante? Bonjour Rinpoche. Je voulais vous demander concernant la diligence, quand vous avez parlé des trois formes de paresse, la troisième étant le défaitisme et le blâme de soi. Je ne pense pas le faire consciemment, mais je pense que presque inconsciemment, ça se déroule et ça a comme résultat que je m'accorde pas de valeur ou que je ne me sente pas très bien avec ma pratique. Comment est-ce que vous gérez cela? Et Rinpoche dit, je pense que c'est aussi une question d'attitude. Quand vous dites que vous avez de l'assurance, ça ne veut pas dire que vous pensez que vous êtes le meilleur au monde. Ça ne veut pas dire que vous pensez que vous pouvez tout faire, que vous êtes Wonder Woman, Rien de tout ça. En fait, fondamentalement, tout le monde est similaire. Chacun a son esprit, a son bon côté, son mauvais côté, sa sagesse, sa compassion. Tout comme tout le monde, en fait, comme tout le monde. Et puis, vous avez certaines de vos qualités positives qui se développent. Et certaines qualités négatives qui sont aussi là. Vous avez des faiblesses, des choses comme ça. Mais toutes ces choses elles sont temporaires. Donc si vous avez développé des qualités négatives comme le blâme de soi, le défaitisme, vous pouvez également développer l'amour pour vous, l'assurance, la bonté, ce genre de choses. Et si vous manquez de certaines choses, si vous manquez de certains talents, si vous manquez de certaines connaissances, certains de tout ce que vous voulez, de quoi que ce soit, si vous y travaillez encore et encore, si vous vous y entraînez encore et encore, vous pouvez apprendre. Et donc, pour certaines personnes, apprendre des choses est plus difficile. Pour d'autres, apprendre est facile. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais apprendre. Et donc, peut-être que vous ne développerez pas ces qualités pendant un grand nombre d'années, mais si vous continuez d'y travailler, vous deviendrez capable de les développer. Et cette compréhension, et le fait de se souvenir de cela, de se le rappeler, je pense que c'est quelque chose dont tout le monde a besoin. Quiconque voudrait s'entraîner à quelque chose, a besoin d'avoir cette compréhension. Je peux m'entraîner, je peux apprendre, et si je m'entraîne encore et encore, alors les choses se produiront, tôt ou tard. Ok, merci Rinpoche. Merci Rinpoche. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? C'est Steve. Est-ce que Steven est là ou Steve? Oui, je suis là. Bonjour, je peux vous voir, dit Rinpoche. Je ne peux pas vous voir, dit Rinpoche. Où êtes-vous? Je suis là. Je peux vous voir maintenant, dit Rinpoche. En entendant vos enseignements sur la discipline, je me demande si il existe le problème opposé de trop de concentration sur la pratique. Vous avez peut-être entendu parler des troubles obsessionnels compulsifs. Et le premier enseignant que j'ai rencontré, c'était Trungpa Rinpoche. Et la première question que je lui ai posée, c'est vous dites qu'on ne devrait pas lutter, mais qu'on devrait avoir de la discipline. Et moi, je lutte avec ma discipline. Et quelle est la différence? C'est très simple, il a dit. Lutter, ça implique toujours ceci ou cela, alors que la discipline, c'est on fait ou on fait pas. Et les samayas, ben, on le fait, il n'y a pas de question. Est-ce qu'on peut en faire trop? Je pense que c'est ça ma question. Je n'ai pas de problème pour aller en profondeur dans ma pratique. J'essaye d'éviter le monde mondain. En ce qui concerne la discipline en termes de Shila, ça concerne qu'est-ce qu'on fait avec notre corps, notre parole et notre esprit, la conduite juste fondamentalement. Bien sûr, on peut inclure la pratique dans cette discipline, mais en fait, la discipline, ça porte surtout sur votre façon de vivre en général quand vous parlez de Shila. Et je pense qu'on dit les choses de la façon suivante. Cette discipline, Shila, elle est fondamentalement, elle est compréhension. Se dire, cette action du corps, parole de l'esprit, est-ce que elle est bonne, utile, bénéfique à moi et aux autres ou pas? Et puis, si vous voyez que cette action, elle est bénéfique, bonne, utile pour moi et pour les autres, alors vous vous permettez de la faire, vous vous autorisez à la faire. Et si vous voyez qu'elle n'est pas bonne, pas utile, pas bénéfique, mais plutôt nuisible, qu'elle va être source de problèmes, de difficultés, de souffrances pour moi et pour les autres, alors vous vous autorisez à ne pas la faire. C'est ça la discipline. C'est comme disait Trungpa Rinpoché, c'est juste que vous devez décider de qu'est-ce qui relève de quoi, et puis soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. C'est ça la discipline. Bien sûr que vous pouvez en faire trop. Ça peut aussi devenir une sorte d'obstacle. Ça fait partie des obstacles secrets qui sont les obstacles secrets dont on parle, qui parlent de faire les six paramitas de la mauvaise manière. Donc on peut aussi en faire trop dans le domaine de la discipline. Ça ressemble, Rinpoche avait dit, c'est un peu comme une torture, et Steven dit, mais ça n'a pas l'air d'une torture, on a juste l'impression que c'est la seule chose à faire. Alors c'est ok, dit Rinpoche. Question suivante, Inka. Merci. Rinpoche, j'ai une question concernant la protection de l'environnement. Donc c'est une... Elle a une bonne amie qui est à l'île Maurice et donc ça parle de la pandémie à l'île Maurice, du fait que ça demande beaucoup de pétrole d'aller sur l'île Maurice. Si l'environnement est très en danger, quelle est la pratique la plus forte à faire? Ma première idée, c'était de faire une pratique de Naga ou une pratique sur Tara. Et on voulait vous demander un conseil, quelle était la pratique la plus forte pour protéger l'environnement quand on est dans une situation spécifique de danger pour un lieu donné. Le mieux pour l'environnement, c'est de faire des pratiques de protection de l'environnement. Essayez de faire quelque chose qui protège concrètement l'environnement de toutes les façons qui vous sont accessibles. Comme Sa Sainteté le Dalai Lama dit encore et encore que prier, c'est très bien, mais il ne pense pas que ça va nécessairement changer grand-chose si on ne fait que prier. Mais bien sûr, prier, c'est très bien, pourquoi pas? Bien sûr, Chitigarba est dit être une pratique spéciale pour la terre, l'essence de la terre. Donc ça pourrait être bon, pourquoi pas. Tara, ça peut être bien. Mais fondamentalement, il faut que les êtres humains deviennent moins avides, n'est-ce pas? C'est ça le traitement. C'est cette le principal point, c'est de travailler sur cette avidité insatiable. Je ne sais pas si vous pouvez dire que ce serait que du bouddhisme ou pas, mais surtout en Asie, on parle de te et chuk. Donc c'est le conteneur et le contenu. Donc nous, les êtres humains, et tous les autres êtres, nous sommes le contenu. On n'entend plus Rinpoche en fait. Ah. Est-ce que je vais répéter? Donc le contenant et le contenu. S'il n'y a pas de contenant, il ne peut pas y avoir de contenu. Si le contenant est empoisonné, le contenu ne peut pas ne pas être empoisonné. Si le contenant est sale, le contenu ne peut pas être sans souillure. Donc, nous, êtres humains, et tous les êtres sur cette terre, sont le contenu. Mais la terre, c'est le contenant. Donc, c'est interdépendant. C'est interdépendant. C'est pas une question de conquête, c'est une question de coexistence de façon saine. Et donc, le plus nous serons en mesure de prendre soin du contenant, plus le contenu, parce que plus ce sera sain et mieux ce sera pour le contenu, pour les êtres. Et ainsi de suite. Et donc cette idée, elle n'est pas présente pour le moment. En fait, pour le moment, on pense que nous nous percevons comme les maîtres et nous percevons tout le monde comme un territoire à conquérir et que nous pouvons consommer, mais alors ça crée beaucoup de problèmes. Nous détruisons nous-mêmes notre propre habitat. Et donc, si par exemple il pleut et que l'eau nous tombe sur la tête, on se demande qui nous punit, en fait, après avoir endommagé nous-mêmes notre habitation. C'est ça le problème. Mais oui, nous pouvons faire des prières aussi, pourquoi pas? Vous savez, en Australie, ils disent que 1 milliard d'animaux sont morts. Est-ce qu'il y a des prières que vous recommanderiez en particulier? Pour eux, je recommanderais la pratique de Chenrezig, mais ça n'a pas. Quelle prière exactement vous allez faire, ça n'a pas beaucoup d'importance dès lors que vous la faites avec compassion. Merci. Question suivante. Bonjour Rinpoche, merci beaucoup de prendre du temps, de partager du temps avec nous et de répondre à toutes nos questions. J'ai une question que je voulais vous poser depuis longtemps. Je me sens un peu embarrassée de le faire devant tant de gens, mais j'espère que ça sera bénéfique. Parfois, quand on se réjouit de notre précieuse existence humaine et qu'on rend hommage à nos parents pour nous avoir éduqués, j'ai des problèmes parce que je viens d'une situation différente où mes parents ne sont pas bénéfiques à mon bien-être. Et je connais beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Et bien sûr, la pratique aide. Mais quand je suis vraiment dans la confusion, je me rappelle ce que vous dites, que c'est la façon dont nous voyons les choses qui est importante, et j'essaie vraiment d'intégrer cela et de m'en souvenir. Et je suis dans une situation où je n'ai pas beaucoup de contact avec mes parents, j'en ai pas vraiment, en fait, parce que c'est mieux pour moi, c'est plus bénéfique pour moi. Et mon père est un réfugié, comme vous. Il a 99 ans. Et j'ai des problèmes. Et j'attends que la sagesse se manifeste. Donc je m'assois, je fais ma pratique. Et j'attends que la sagesse se manifeste pour me permettre de savoir comment avancer. Et maintenant, j'aimerais vous demander quoi faire. S'il est si vieux, il a 99 ans, si je prends le risque de lui parler, j'ai jamais pu avoir de conversation avec lui sur rien. Et est-ce que c'est... au risque de le bouleverser à un âge si avancé, et je suis très consciente quand je prends refuge d'avoir ma mère d'un côté, mon père de l'autre, et ça me bloque. Parce qu'ils sont trop dominants. Et si je les imagine maintenant, j'imagine en plus des lamas pour me protéger. C'est plus facile. Mais je me sens mal. Parce que vraiment, je dois faire la pratique pour les aider. C'est à moi d'en arriver à ce point. Parce que je suis reconnaissante pour cette précieuse existence humaine. Et je sais que quand même, ils m'ont aimé. Donc, il y a cette confusion, ces obscurcissements. Donc, est-ce qu'il vaut mieux lui parler et me confronter à lui, ou est-ce qu'il vaut mieux le laisser en paix? Qu'est-ce qui est le plus bénéfique? Pourquoi vous voulez le confronter? Vous pouvez juste aller le voir, et puis vous êtes agréable pendant un ou deux jours, et vous repartez. Non, je faisais ça. Quand j'allais les voir, après tant de pratiques, et j'étais très bonne avec sa femme, et ils étaient contents et ils me disaient de revenir. Alors, ne revenez pas, dit Rinpoche, ou alors vous faites juste des choses agréables, vous passez peut-être pas trop de temps si ils ne veulent pas de vous. Soyez juste un peu bienveillante et puis apportez-leur des cadeaux un peu. Dites des paroles agréables. Vous n'avez pas besoin de parler de manière confrontante, de ressortir toute votre histoire, de résoudre tous les problèmes. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Il y a une chose dont j'aurais besoin de lui parler, mais ça va le bouleverser. C'est quelque chose qui se passe et ça me cause des problèmes formels. C'est quelque chose de sérieux qui se passe. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, dit Rinpoche. La plupart des problèmes que les gens ont avec leurs parents, c'est qu'ils attendent trop de leurs parents. Voyez-les comme juste des personnes ordinaires et vous n'avez aucun droit de réclamer quoi que ce soit d'eux. Ils vous ont donné la vie, ils vous ont élevé jusqu'à ce que vous puissiez être autonome, même s'ils n'ont plus rien fait depuis. Donc, il n'y a rien, y a rien que vous soyez légitime à attendre d'eux. Donc, toute attente que vous avez vis-à-vis d'eux, c'est votre problème. Donc, si vous y allez sans la moindre attente, alors vous aurez plus de problèmes à résoudre, et alors eux non plus n'auront aucun problème avec vous. Mais si vous venez avec ce problème, alors vous créez un problème, vous créez de la confrontation, vous créez des difficultés pour eux, et alors ce sera ni bon pour eux, ni bon pour vous. Donc, à ce point, vous ne devriez pas faire cela. Vous ne devriez rien leur demander, vous ne devriez rien attendre d'eux. Si ils vous donnent quelque chose, prenez-le avec gratitude. Et s'ils ne le font pas, eh ben c'est OK. Donc laissez-le mourir en paix. C'était ce qu'était mon sentiment. Et puis, vous vous dites ça, je n'ai aucune attente vis-à-vis de lui. Quoi qu'il veuille faire de sa vie, c'est à lui de voir. Donc, et vous lui dites merci, je veux exprimer ma gratitude, mon amour, peu importe, et c'est tout. Merci beaucoup. Et je pense que ce serait une très grande chose pour lui. Et ce sera bon pour vous aussi, parce que quelque part, vous laisserez s'en aller. Mais si vous ramenez un problème, ça sera pour bon. Bien sûr qu'il va être bouleversé, dit Rinpoche. Le passé est passé, dit Rinpoche. Il vous faut le laisser s'en aller et vous n'avez plus besoin d'en parler. Parfois, les gens pensent qu'on doit en parler, mais parfois, il ne sert à rien d'en parler parce que ça ne résoudrait pas. Nécessairement résoudre des problèmes, ça pourrait même sonner comme une accusation. Et tout particulièrement à cet âge, que reste-t-il à dire? De quoi faudrait-il parler? Soyez peut-être juste un peu agréable et puis bienveillante, et puis dites que quel que soit le problème, c'est OK, c'est fini, c'est passé. C'est important, dit la personne. Merci beaucoup, Rinpoche. Question suivante, Emma. Je me suis. Bonjour, Rinpoche. Je voudrais juste dire que à la dernière oratrice, merci de sa question. De m'avoir rappelé de ne pas avoir d'attente vis-à-vis de mes parents. Donc je voulais juste dire la remercier parce que ça m'a bénéficié à moi aussi. Je voudrais juste vous demander, Rinpoche, si vous pourriez m'aider. Je voudrais vérifier si je pratique le Bouddha de médecine correctement. Je pratique le matin, tous les matins. Mais ça a à voir avec la quantité de souffrance dans le monde qui me semble un peu trop grande pour moi. Et ce que je fais, c'est que je nomme les personnes que je connais qui souffrent dans les hôpitaux ou qui ont demandé des soins, qui ont des maladies qui portent atteinte à leur vie. Le Covid, des cancers. Des maladies mentales, émotionnelles, une détresse de cet ordre. Et puis les pays comme le Brésil, où il y a des millions de gens qui ont le Covid, les États-Unis, l'Amérique. Il y a beaucoup de souffrances et elles sont rudes. Et parfois tout ça a l'air d'être vraiment beaucoup. Et est-ce que c'est OK de nommer ces individus et ces endroits et de leur dédicacer ces pratiques dès le début et puis ensuite faire toute la pratique. Est-ce que je dois nommer ces endroits dans le dans la partie de motivation et de dédicace? Rinpoche dit non. Ce qu'on fait en général, c'est que on ne les nomme pas. On fait d'abord la pratique. On fait la pratique pleinement, complètement. Et puis, quand on a fini la pratique, alors vous dédicacez la pratique à tout le monde. Et en fait, on va pas du plus petit au plus grand, mais on va du plus grand au plus petit. Donc, on commence par tous les êtres de l'espace, et puis à tout le monde dans ce monde, puis plus spécifiquement ceux spécifiques que vous voudriez, et puis vous allez de plus en plus dans le détail, au plus proche, comme les gens autour de vous et tout ça. Et puis ensuite, à eux, vous faites la dédication. La dédicace, c'est comme ça que vous faites. Je ne sais pas si ça fait une grande différence, dit Rinpoche, mais c'est en tout cas comme ça que l'on fait traditionnellement. Tout d'abord, on dédicace à tout le monde. Et puis ensuite, on devient de plus en plus spécifique. À la fin. Oui, c'est ça, à la fin. Parce que la souffrance, elle est toujours présente et il y a beaucoup de souffrance tout le temps. C'est pas quelque chose qui est nouveau ou qui n'arrive que maintenant. C'était toujours, il en a toujours été ainsi, depuis les temps sans commencement. Et donc, il faut que ça se termine, il faut que ça se libère. Mais c'est pas, il est peu vraisemblable que ça se fasse très rapidement. Mais donc vous faites les prières et puis au moins les dédicaces ainsi. Donc c'est pas la peine de vous sentir dépassé parce qu'il y a, y a rien, ça sert à rien. Et plus vous prenez acte de la souffrance, moins vous allez vous sentir dépassé. Rinpoche dit, vous laissez toucher par votre cœur, mais vous comprenez que ces souffrances, elles sont là et qu'elles sont là partout et tout le temps. Si vous prenez acte de de cette dimension universelle de la souffrance, que tant dans le passé que dans le présent, et ben vous vous rendez compte qu'il faut libérer cette souffrance, mais personne ne peut le faire juste en un claquement de doigts. Donc il n'y a pas besoin de citer des pays ou des endroits individuellement. Rinpoche dit, bah, si vous vouliez citer des pays ou des personnes individuellement, vous y passeriez la journée en fait. Merci beaucoup, dit la personne, c'est très utile. Merci beaucoup. Peter, bonjour. Est-ce que vous pouvez m'entendre correctement? Oui, merci. Merci pour au dernier orateur parce que ma question était assez similaire. Je voulais vous demander, de même que la personne précédente, je pense à des personnes qui sont décédées ou qui ont beaucoup de problèmes. Et puis ensuite, je vais dans dans les mantras du Bouddha de médecine ou de Tara Blanche, ou quelle que soit la pratique que je fais, je m'inquiète seulement de. Je vais gérer directement au mantra. Par exemple, je ne fais pas la visualisation de Tara, je ne fais pas l'enceinte protectrice. Je me demande, est-ce que c'est OK d'aller juste directement au mantra et de prier pour ces personnes? Je me demande si quelque part j'ampute la pratique. Une poutre dit non, c'est OK. Ces différentes étapes, ces différentes visualisations, vous pouvez soit les faire de manière plus développée, soit les faire de manière moins développée, ce genre de choses. Donc vous pouvez vous souvenir de certaines des visualisations, etc. Mais chaque partie de la pratique, c'est une pratique sur vous-même. Il ne s'agit pas tellement du Bouddha de médecine ou de Tara que de vous-même. Donc, quelles que soient les parties que vous souhaitez développer, vous pouvez les développer. Si vous sentez que c'est plutôt les mantras que vous voulez développer, bah vous faites plus de mantras. Si vous voulez développer plus le Bouddha du corps de médecine, vous faites ça. Si vous voulez développer l'envoi de radiation de lumière, vous pouvez faire ça. Et peu importe. Et puis la dédicace et ce genre de choses. Merci, dit Rinpoché. Comme la précédente personne, je récitais des prières pour les personnes en particulier d'abord. Et Rinpoché dit non, d'abord vous faites la pratique. Bien sûr, pendant la pratique, vous envoyez aussi à tous les êtres. Merci, et je pense que nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup.